BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous J'ai dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, nous sommes repartis, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business en direct avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir, Audrey.
Rebonsoir, Guillaume, rebonsoir à tous.
Et donc, la grande question ce soir, depuis le temps qu'on nous l'annonce, est-ce que ça y est? Est-ce qu'on a passé le pic du pire sur l'inflation? On pose la question, parce que les chiffres qui sont tombés ce matin, 5,1%, sont assez encourageants. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant.
Et puis, on parlera aussi artisanat et apprentissage tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui débute la semaine nationale de l'artisanat. Ouais. On est, rappelons-le, serinons-le sur des métiers qui recrutent et qui offrent de vraies perspectives de carrière. Le patron de CMA France sera avec nous à 19h15 pour en parler.
Et puis, l'invité d'Eddy Chorillon, 19h30, c'est Giuseppe Lavazza, vice-président du groupe éponyme Lavazza. On est dans le café, bien sûr, qui sera son invité. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Donc, c'est la bonne nouvelle du jour. L'inflation qui a sérieusement baissé au mois de mai, 5,1%, là, à la fin mai, contre 5,9% un mois auparavant. Bonsoir, Thomas Asportas. C'est des bons chiffres. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment attendus, ces chiffres, Thomas, finalement?
On ne s'attendait pas à un tel recul de l'inflation. En fait, il y a deux bonnes nouvelles derrière ce chiffre. La première, c'est qu'effectivement, l'inflation décroche assez nettement. Elle recule de quasiment un point en un mois et elle retombe au niveau d'il y a un an. Ouais. Ça faisait un an qu'on était scotché autour des 6%, et là, d'un coup, on passe en tout juste un mois à 5%. Donc, ça fait vraiment un décrochage significatif. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas prévu, puisque dans sa dernière note de conjoncture, qui date du 5 mai, donc il n'y a vraiment pas longtemps, l'INSEE tablait sur une inflation qui reculait à 5,7 au mois de mai, puis à 5,4 au mois de juin. Et le résultat, on est finalement à 5,1 en mai. Donc on voit que ça baisse beaucoup plus vite que prévu.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça baisse plus vite?
Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que toutes les composantes de l'inflation, sans exception, se replient, et plus rapidement que ce qui avait été anticipé. En premier lieu, évidemment, l'énergie. La hausse des prix, elle est quasiment en train de s'éteindre. Mmh. Elle n'est plus que de 2%, alors qu'un an plus tôt, on était à 28%. Donc vraiment retour à la normale. Ensuite, les produits manufacturés, l'inflation passe de 4,6 à 4,1. Les produits à la production baissent et ça se répercute tout de suite dans les prix de vente. Et enfin, dans les services, l'inflation n'augmente pas, elle reste à 3%. Et, cerise sur le gâteau, ça commence même à baisser aussi et enfin dans l'alimentaire, puisqu'on passe en un mois de 15 à 14% d'inflation. Alors évidemment, 14% d'inflation, ça reste encore colossal, mais si ce début de baisse d'inflation se confirme dans les prochains mois, eh bien ça voudrait dire qu'on est enfin, ça y est, sur la bonne voie. Et d'ailleurs, le gouverneur de la Banque de France a été interrogé ce matin sur la question, on lui a demandé de réagir à ce chiffre et il a répondu, je le cite, que le pic de l'inflation est probablement derrière nous. Donc si ça se confirme dans les prochains mois, eh bien ça voudra dire que le gouvernement et la Banque de France finalement auront eu raison dans leurs prévisions, puisque ça fait des mois qu'ils tapent sur une baisse de l'inflation au début de l'été, donc là ça y est, on l'a avec ce chiffre de ce matin, et deux, un repli tout au long du second semestre pour atterrir autour des 3,5% d'inflation en fin d'année. Donc on va vraiment regarder de près les chiffres d'inflation cet été, parce que ça va vraiment être le moment de vérité.
Ça va être le moment de vérité. Merci beaucoup Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Alors, c'est la grande question. Est-ce qu'on a passé le pic, Audrey, désormais, sur l'inflation?
Écoutez, en effet, a priori, oui, pour toutes les raisons évoquées à l'instant. Maintenant, ça reste quand même une science assez inexacte, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a un an, jour pour jour, Bruno Le Maire nous annonçait que nous étions en plein, justement, dans le pic de l'inflation, qu'elle allait refluer très rapidement. Et finalement, un an après, on vit quotidiennement avec une inflation à deux chiffres qui rogne complètement le pouvoir d'achat des Français. Donc, on ne peut qu'espérer que Villeroy de Gallo ait raison et que l'inflation retombe à 2% fin 2024.
L'inflation, elle a beau baisser, Bruno Le Maire a quand même remis un petit coup de pression ce matin sur les distributeurs et les fournisseurs pour qu'ils se remettent autour de la table. Surtout sur les fournisseurs, pour qu'ils baissent leurs prix. Sans ça, il a dit il y aura des sanctions, malheureusement. Écoutez, Bruno Le Maire.
J'avais laissé jusqu'à fin mai, début juin. Nous y sommes.
Donc, je sanctionnerai les entreprises si elles ne le font pas.
Plus précis, ce n'est pas une sanction. Ce sera une taxation. Voilà, ça... Les très grandes entreprises de l'agroalimentaire, les 75 qui étaient dans mon bureau, qui s'étaient engagés à redistribuer les marges aux consommateurs en baissant les prix avec des négociations commerciales. Soit elles le font et tout se passera bien. Et je leur fais confiance pour tenir parole. Mais si elles ne tiennent pas parole, je pense que je serai fondé à utiliser l'instrument fiscal pour récupérer les marges et rendre ces marges aux consommateurs. Ça.
Voilà, Bruno Le Maire qui souhaite donc que distributeurs et fournisseurs se remettent rapidement autour de la table. Le dossier des retraites, le ton monte à l'Assemblée puisque la majorité a réussi aujourd'hui à supprimer du fameux texte Liot la proposition qui prévoyait c'est de revenir sur le report de l'âge légal à la 64 ans. Il a suffi de quelques amendements lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales. Ça n'a pas plu aux députés NUPES qui siégeaient dans cette commission, qui en ont claqué la porte. Ils se disent victimes, je cite, de magouilles de la part de la majorité. 19h05, dans l'actualité des entreprises, ce gros contrat de Total Energy qui va s'allier avec un groupe belge pour aller aux États-Unis développer du gaz de synthèse. Total cède aux sirènes de l'IRA américain pour aller produire ce gaz de synthèse qui pourrait rendre bien des services à certaines grosses industries. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
Le e-gaz ou gaz synthétique a exactement les mêmes propriétés que le gaz naturel classique, sauf qu'il est plus vertueux pour l'environnement. Au lieu d'aller le chercher dans les sous-sols, on le fabrique avec d'un côté de l'hydrogène et de l'autre du CO2. Total Energy va donc produire aux États-Unis de l'hydrogène vert avec un électrolyseur alimenté par de l'énergie éolienne. Cet hydrogène sera ensuite combiné avec du CO2. Le gaz peut ensuite être transporté en pipeline ou liquéfié. Total Energy envisage une production de 200 000 tonnes par an. Avantage, ce gaz utilise les infrastructures existantes et les clients finaux comme les aciéries ou les usines pharmaceutiques n'ont aucune modification à faire dans leurs installations. Cette annonce de Total participe d'un mouvement de fonds mondial qui est en cours dans le domaine des gaz et plus largement des carburants de synthèse qui sont présentés de plus en plus comme la solution immédiate pour décarboner les industries et les transports.
Voilà, et Total qui l'a dit clairement, hein, les généreuses subventions de l'IRA américain, bah forcément ça a joué dans l'histoire tout ça Audrey. Hein,
ben oui, bien sûr, mais ce qu'il faut préciser c'est que l'IRA est aussi attractif, surtout parce qu'il vient se cumuler avec un différentiel de prix énorme sur l'énergie, qui reste beaucoup moins cher aux États-Unis, hein, d'où l'importance de se mettre d'accord rapidement dans la durée sur des prix qui sont négociés entre nos fournisseurs d'énergie et nos industriels. Et ça, ça va complètement dans le sens de la réforme que pousse la France sur le marché de l'électricité et qui devrait arriver en fin d'année.
Voilà pour le gaz synthétique. Puis à l'hydrogène. C'est le lobby France Hydrogène qui s'est fait remarquer aujourd'hui en interpellant le gouvernement dans une tribune publiée ce matin. Le principal lobby de l'hydrogène en France estime que le gouvernement pourrait aller plus loin, plus vite pour promouvoir l'hydrogène vert en France. On en parlait tout à l'heure avec Christelle Verquin, déléguée générale de France Hydrogène. Écoutez son propos.
Ça fait 2 ans que la stratégie a été lancée. Elle avait un grand mérite. Elle était cohérente. Elle avait une approche très globale. Il faut poursuivre cet effort-là. Il y a beaucoup d'investissements publics qui ont été mis en place, en particulier sur les équipements en mobilité, les fameuses gigafactories.
Oui, oui,
si
oui.
On s'arrête au milieu du gué aujourd'hui parce qu'on décide de ne pas donner sa chance à des nouveaux usages ou de ne pas poursuivre un petit peu un pas supplémentaire jusqu'à réussir, bah, en fait, on aura investi un peu en vain. Donc, il faut, en fait, aux côtés des grosses masses, des grosses industries à décarboner avec de l'électrolyse très massivement, il faut servir des usages plus diffus sur le territoire, des industries plus diffuses et de la mobilité. Et en effet, ça appelle des projets un peu de plus petite taille pour commencer.
Voilà, Christelle Verquin est déléguée générale de France Hydrogène qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business. 19h09. Cette histoire à présent qui nous prouve que même si on parle beaucoup réindustrialisation, il y a un décalage entre la théorie et la pratique. À Calais, vous avez une grosse usine de principes actifs qui ferme ses portes aujourd'hui. Vous savez, ces principes actifs pharmaceutiques dont on a beaucoup parlé. Le problème, c'est qu'elle a été mise en redressement judiciaire il y a 1 an, mais que malheureusement, elle n'a trouvé strictement aucun repreneur. Hélène Cornet.
Près d'une dizaine d'investisseurs a étudié le dossier, aucun n'a donné suite. L'usine de Calais ferme définitivement, la faute à une conjonction de facteurs défavorables. Des coûts de production trop élevés, l'installation à proximité de concurrents, des aléas extérieurs comme la crise migratoire. Malgré 26 millions d'euros injectés depuis 10 ans dans l'usine, il n'y avait plus de perspective de croissance. Le coup de grâce a été donné par 2 futurs clients de laboratoires pharmaceutiques qui ont finalement abandonné chacun leur étude clinique. Rageant, alors que le mot d'ordre est à la réindustrialisation des principes actifs pharmaceutiques en France. La relocalisation de produits à gros volume est illusoire, explique David Simonet, PDG du groupe Accentis, devant le Sénat.
Force est de constater qu'il n'y a pas aujourd'hui de place pour de la relocalisation, pour du développement de molécules à très fort volume. La compétitivité sur les molécules à très fort volume est encore beaucoup plus dégradée par rapport aux zones Asie. C'est pour ça que l'enseignement que j'en tire, c'est que la relocalisation ne peut se faire que sur des petites séries, des molécules à très forte valeur ajoutée.
Un échec, reconnaît le dirigeant, qui regrette qu'aucun industriel n'ait pu prendre le relais, maintenir coûte que coûte l'outil industriel à Calais, commençait selon lui à mettre en péril l'avenir du groupe tout entier.
Voilà le Citac Saint-Is de Calais qui ferme ses portes aujourd'hui. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. Et puis alors aujourd'hui, 31 mai, figurez-vous que c'est la journée mondiale sans tabac. Et c'est le jour qu'a choisi, est-ce une provocation ? Apparemment non, le patron de Philip Morris pour déclarer dans la presse anglo-saxonne que son groupe avait tout pour devenir, à terme, une véritable entreprise ESG. En tout cas, elle le dit, elle le mérite, sans ambiguïté. Nathan Cocampo nous raconte tout ça.
Investir dans les cigarettes, le tabac et la nicotine, un investissement responsable, éthique et bon pour notre société. Le PDG de Philip Morris met les pieds dans le plat et semble quelque peu déconnecté de la réalité. Le fabricant des Marlboro estime donc mériter ses critères ESG. Principal argument avancé, sa transition vers des alternatives au tabac moins nocives, notamment à base de vapeur de nicotine. Une nouvelle gamme de produits qui représente environ un tiers de ses revenus et l'objectif d'atteindre la moitié d'ici à 2025. Pas sûr que ce soit suffisant. Pour rappel, la cigarette est la principale cause de décès évitable dans le monde. L'an dernier, Philip Morris en a vendu plus de 600 milliards, sans parler du travail d'enfants dans les plantations de tabac, de l'aveu même du PDG. Les critères ESG sont donc encore loin d'être atteints, mais l'enjeu pour Philip Morris, c'est de se positionner pour peut-être réussir à faire revenir les investisseurs institutionnels. Il faut dire que depuis le début de la guerre en Ukraine, l'investissement dans les armes de défense et lui jugé vertueux et durable, y compris au nom d'investissements responsables.
Voilà, Philip Morris, bientôt peut-être entreprise ESG à plein temps. Nathan Cocampo avec nous pour BFM Business. Puis le gouvernement en France, on va y revenir, hein, c'est annoncé hier, va investir 340 millions d'euros pour développer les métiers d'art. L'objectif, c'est toujours et encore susciter une vocation chez des jeunes et redonner de l'élan à cette filière fragilisée notamment par la crise du Covid et l'inflation, bien sûr. Zidane Azouzi.
L'idée, c'est de créer un contrat de filière sur 3 ans entre les pouvoirs publics et les entreprises pour valoriser les métiers d'art. Parmi les mesures annoncées, 1000 stages de 3e ou encore la découverte d'ateliers pour 35 000 jeunes via un réseau d'associations. L'annonce était attendue avec impatience par une filière éclatée en 281 métiers. Pour les 60 000 entreprises du secteur, Olivia Grégoire a aussi fait une annonce très attendue, cette fois sur le terrain fiscal.
Ce serait quand même dommage qu'on oublie de parler d'une mesure que nous portons ensemble, même si ça n'est pas la principale sur laquelle nous nous sommes appesantis, mais c'est une des principales sans lesquelles l'amplitude de ce plan serait compromise. C'est évidemment la reconduction du crédit d'impôt métier d'art, le CIMA, pour un montant qui mérite d'être cité d'à peu près 47 millions d'euros par an. Sur 3 ans.
Ce crédit d'impôt représente à lui seul la moitié du plan de financement. Les professionnels du secteur saluent cette mesure dont le périmètre a été élargi pour toucher plus de métiers d'art.
Voilà, rallonge de 340 millions d'euros pour les métiers d'art. Zidane Azouzi avec nous sur BFM Business. Il est 19h13. On retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture en baisse, en forte baisse même ce soir à la Bourse de Paris. -1,5% pour le CAC 40, 7098 points. Bonsoir Sabrina, on vous retrouve depuis New York à mi-séance chez vous à Wall Street, où apparemment c'est pas très folichon. Alors ce plafond de la dette, on conclut ou bien ?
Ah, bah on attend justement, on attend vote ce soir de la Chambre des représentants sur le plafond de la dette américaine. On ne prend pas de risque dans ce contexte-là. On a eu également des chiffres concernant le marché de l'emploi aux États-Unis avec des offres d'emploi. L'enquête, la fameuse enquête JOLTS, des offres d'emploi qui sont sorties au-dessus des attentes. Un marché de l'emploi toujours aussi solide, ce qui veut dire que eh bien, ça a révisé à la hausse les anticipations de hausse de taux de la Fed pour la prochaine réunion de juin, avec une hausse donc qui est désormais attendue des marchés qui digèrent aussi un pétrole qui recule fortement, un marché obligataire avec une détente du 10 ans américain 3,64 et quelques résultats d'entreprise dans l'ensemble décevants, en tout cas des prévisions dans le secteur du haut de gamme, l'habillement haut de gamme, luxe, Capri, c'est Michael Kors avec des résultats certes supérieurs aux attentes grâce à la Chine sur le trimestre écoulé, mais des prévisions de chiffres d'affaires décevantes dans le sillage, nous dit Capri, d'un ralentissement de la demande aux États-Unis, des dépenses aux États-Unis. Le titre Capri est sévèrement sanctionné, pas mieux du côté de Hewlett-Packard, HP, qui a publié également des résultats inférieurs aux attentes et qui sont sanctionnés par la communauté financière. Un marché donc qui recule en attendant ce vote à Washington. Le Dow Jones cède 0,6%, le S&P 500 perd 0,7% et l'indice Nasdaq de son côté est également en repli de 0,7%.
Merci beaucoup Sabrina. Bon, surveillez ça comme le lait sur le feu, évidemment, sur BFM Business. On sera avec vous, évidemment, pour suivre la fin de cette séance du côté de Wall Street. 19h15, on marque une pause. C'est la semaine nationale de l'artisanat qui débute en France, l'occasion de reparler apprentissage. Et là, l'artisanat surfe beaucoup sur cet apprentissage. 800 000 contrats signés l'an dernier, est-ce qu'il faut aller encore plus loin, encore plus vite? Le président du réseau CMA, les chambres de métiers et de l'artisanat, est avec nous, Joël Fournier, dans un instant. À tout de suite.
Good evening business, ils font l'écho.
19h19, c'est l'heure de notre deuxième invité. Et oui, vous le disiez, Guillaume, c'est une semaine importante, oui. Puisque elle marque le début de la semaine consacrée à l'artisanat. Et on en parle tout de suite avec le président de CMA France. Bonsoir, Joël Fournier.
Bonsoir.
Alors, CMA France, hein, c'est le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Donc, c'est un réseau qui regroupe à peu près 1,8 million d'entreprises. Et combien de métiers?
Alors, on est à peu près sur 250 métiers identifiés et c'est effectivement un réseau de 1000, une filière artisanale représentée par le réseau des chambres et métiers et ça compte à peu près 1 800 000 entreprises artisanales.
Ah oui, c'est beaucoup. Alors, on ne s'invente pas artisan, ça c'est le thème de votre manifestation cette année avec une affiche très explicite.
On va la voir si vous regardez la télévision.
Voilà, ouais, exactement, voilà. Qui sont devant leurs écrans.
On l'a décrit, on voit un jeune homme qui a apparemment a mis les doigts dans la prise, qui a une prise à la main et qui s'est un peu raté, qui maîtrise pas son sujet. Voilà, c'est quoi l'idée fondamentalement de cette affiche?
L'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas se décréter comme ça parce qu'on a une envie rapide de s'installer artisan. Il faut avoir une connaissance professionnelle, il faut avoir une qualification professionnelle, il faut avoir un savoir-faire. Ouais. Donc, du coup, ça mérite une formation préalable, une connaissance du geste, du métier. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut apprendre et ça, c'est ouvert à tous les publics, hein. Et d'ailleurs, on a beaucoup de personnes en reconversion qui viennent vers nos métiers, mais on leur donne des formations adaptées sur le volet technique et sur la technologie de nos métiers.
Mais est-ce que c'est pas aussi finalement une manière peut-être un peu déguisée, hein, de dire non à toutes ces plateformes qui mettent en relation des particuliers dans le besoin et d'autres eh bien, qui vendent des savoir-faire qu'ils ne maîtrisent pas forcément?
Non, c'est absolument pas.
C'est pas ça.
C'est simplement.
Ça aussi, ça pullule, c'est pour ça.
C'est simplement de bien faire prendre en compte sur la proximité que l'économie de proximité est une réalité.
Oui. Je pensais à la rénovation énergétique, moi personnellement. Qui sonne chez vous pour vous vendre des savoir-faire qu'ils ne maîtrisent pas absolument pas. Quoi.
Non, la rénovation énergétique, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'il faut, dont le secteur de l'artisanat doit prendre en considération. Et je pense que le réseau des chambres de métiers est là pour les accompagner là-dessus. Ouais. Bien évidemment, c'est accompagner les entreprises à trouver des sources d'économie sur la consommation d'énergie. Et ils sont prêts à le faire. Ils sont dans une démarche qui va dans ce sens. En tout cas, c'est le rôle que l'on amène auprès des entreprises. C'est notre rôle de conseil, de diagnostic avec l'entreprise pour voir quelles sont les sources d'économie possibles. Et ils sont dans cette démarche. C'est une période difficile parce que quand vous passez d'un tarif tel qu'on le connaissait auparavant, avant la crise, et aujourd'hui, la situation du coût de l'énergie, c'est assez rapide et je dirais direct, mais pour autant, je pense qu'il y a des possibilités d'évolution. Ouais. Et en tout cas, moi, je suis confiant. Je suis confiant et je sais que les entreprises artisanales seront capables de s'adapter en fonction de l'évolution.
Mais je comprends pourquoi vous êtes confiant, parce que l'artisanat, il faut le rappeler, hein, c'est quand même 3 millions d'actifs, donc c'est à peu près 20% du PIB, avec un apprentissage qui atteint des niveaux historique, 800 000 contrats d'apprentissage signés l'an dernier. Donc ça veut dire que ce sont des métiers super attractifs, qui attirent. Mais est-ce que vous dites ce soir peut-être qu'il faut aller plus loin ?
Il faut bien sûr aller plus loin parce qu'on a envie d'aller plus loin. Le gouvernement a annoncé la possibilité d'atteindre 1 million d'apprentis dans les années qui viennent. Bien sûr qu'on y arrivera. Il faut simplement avoir cette volonté politique d'aller vers cela. On est passé de 250 000 apprentis en France à aujourd'hui plus de 800 000. Ça veut dire que du coup le réseau s'engage fortement. 176 000 apprentis formés chaque année dans le secteur de l'artisanat. C'est énorme.
Mais nous pouvons encore faire plus. Volonté politique, elle est là, puisque l'annonçait hier, il y a 340 millions d'investissements publics dans les métiers de l'art, et ça vous concerne.
Oui, bien sûr, l'annonce qui a été faite sur le plan stratégique en soutien aux métiers d'art, c'est une excellente nouvelle. On attendait ce plan depuis très longtemps, et on a travaillé énormément avec la ministre, avec les ministres, parce que c'est les deux ministères qui sont concernés, culture et artisanat et au TPE, et du coup, nous avons travaillé avec Olivier Grégoire pour définir quelles étaient les attentes du secteur et des métiers d'art. Mmh. Et bien sûr, une nouvelle importante, c'est notamment le crédit d'impôt qui est continué. Et donc là, c'est un élément extrêmement important, avec aussi des aides financières très directes au soutien sur les activités et sur les métiers assez rares.
Justement,
qu'il faut préserver.
800 000 contrats d'apprentissage, ça augmente d'année en année, mais avec des aides du gouvernement. Là, on est parti pour une aide de 6 000 euros, je crois, jusqu'à la fin du quinquennat. Mmh. Est-ce que vous dites, si après le quinquennat ces aides s'estompent, sont interrompues, est-ce que le soufflet va pas retomber finalement, Joël Fourny? Il y a quand même un petit risque.
Alors après, c'est de savoir si on veut vraiment accompagner cette dynamique de l'apprentissage, là où on est passé d'un stade à un autre, là où on veut permettre d'avoir une filière d'excellence en termes de formation, c'est quelque chose qui marche. La preuve, c'est que le dispositif est concluant. On a su se donner les moyens pour permettre de donner une forte évolution, une forte possibilité d'augmentation vers l'orientation vers la formation par apprentissage et par alternance. Ça veut dire que c'est une réalité, on n'aura rien sans rien, il faudra s'en donner les moyens pour pouvoir atteindre ce million d'apprentis en France.
Alors justement, parce que là vous parlez de ce qui marche, mais si on parle de ce qui marche peut-être un peu moins bien, est-ce qu'il n'y a pas du côté des CFA une nécessité à monter en gamme sur plusieurs formations, voire à faire en fait une sorte de tri?
Le réseau était extrêmement performant là-dessus. Nous sommes les leaders de la formation et nous avons su apporter une offre de service qui est conséquente sur l'ensemble du territoire.
Qui répond aux besoins des entreprises.
Nous avons su adapter, digitaliser nos formations et qui répondent. Bien sûr, notre objectif premier, c'est d'entendre quelles sont les attentes et les besoins des entreprises. Et là où on a des besoins spécifiques sur des formations particulières parce qu'ils ont une tension énorme en termes de besoins de main-d'œuvre, nous allons aller former au plus près des entreprises sur les bassins économiques concernés et nous serons capables de faire des formations territorialisées. Donc nous avons des dispositifs qui changent avec une offre de service qui s'adapte en fonction du besoin, en fonction de la période, en fonction de l'évolution de chaque activité, de chaque métier.
Quand vous voyez des rapports qui disent qu'il faut faire moins de bureautique, aller plus vers les métiers liés à l'environnement, finalement vous dites quoi? Vous dites on doit remettre...
Eh bien moi je dis que chaque métier du secteur de l'artisanat est forcément en lien avec l'environnement et avec le besoin l'enjeu de l'environnement. Et donc ça veut dire que chaque métier du secteur de l'artisanat doit se préoccuper et voir comment il peut améliorer, évoluer sa manière de fabriquer son produit, la manière de se positionner sur les nouvelles technologies pour permettre d'intégrer le volet énergétique dans sa démarche. Bien sûr, c'est un élément fondamental puisqu'aujourd'hui c'est l'enjeu de notre société et donc comment l'artisanat pourrait être totalement en dehors de cette évolution. Évidemment, c'est un effet important aujourd'hui sur lequel il faut qu'on impulse. Mais je pense pouvoir dire aujourd'hui que les entreprises artisanales ont déjà bien pris en compte cet enjeu.
Mais alors, il y a un chiffre que vous mettez souvent en avant qui est celui de 80%. 80% des jeunes trouvent un emploi 7 mois seulement après l'obtention de leur diplôme et 1 sur 2 deviendrait chef d'entreprise. Est-ce que c'est vraiment 1 sur 2?
Oui, c'est 1 sur 2. C'est-à-dire que 50% des apprentis qui ont été formés par l'apprentissage s'engagent soit dans le cadre d'une création d'entreprise ou d'une reprise d'entreprise. C'est ça la réalité. Et quand on sait qu'on a 300 000 entreprises à céder. Et d'ailleurs, de la semaine qui s'ouvre, de la semaine de l'apprentissage du 2 au 9 juin, j'invite les uns et les autres et le grand public à ouvrir, à pousser les portes des entreprises artisanales pour découvrir les métiers, pour permettre peut-être de s'engager sur une activité artisanale et puis pousser les portes des CMA pour voir comment ils peuvent être accompagnés.
Donc des manifestations à travers toute la France là pendant une semaine, comment ça se passe?
Toutes les chambres des métiers régionales et départementales sont mobilisées sur les actions particulières en proximité pour valoriser la filière artisanale.
Et aller voir, découvrir ces métiers pour les plus jeunes, bien sûr.
Découvrir la région et voir la réalité de ce que vivent les consommateurs sur le terrain, parce que quand vous savez que les consommateurs approuvent l'artisanat à 83%, ça veut dire que c'est une vraie richesse économique pour notre pays.
Ben voilà, la semaine nationale de l'artisanat du 2 au 9 juin prochain dans toute la France. Merci beaucoup Joël Fournier.
Merci,
merci de passer nous voir, le président de CMA France avec nous sur BFM Business. Merci,
merci
infiniment. 19h27.
Edwige Chevrillon nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Audrey, bonsoir Guillaume.
Bonsoir
monsieur.
Votre invité ce soir.
Un Italien, Giuseppe Lavazza. On connaît tous le café Lavazza, le café carte noire. C'est le premier fabricant mondial de machines à expresso. Premier fabricant mondial des petites capsules. Il est partenaire de Roland-Garros. Il est de passage à Paris, donc de passage sur le...
Évidemment.
De BFM Business, bien sûr.
Et ben voilà, Giuseppe Lavazza avec vous, Edwige. La grande interview, 19h30, 20h, dans un instant. Et puis nous, on se retrouve bien sûr demain pour nouvelles aventures, évidemment.
Et oui, en attendant, l'émission est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et tout de suite, c'est la grande interview.
Très belle soirée, à demain.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois quelqu'un qui dirige un groupe dont vous connaissez évidemment les produits. Il est la quatrième génération parce que ça a été créé par son arrière-arrière-grand-père, Luigi Lavazza, en 1895. Giuseppe Lavazza, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, de parler français.
Merci.
Vous pouvez peut-être parler italien ou anglais de temps en temps si vous avez un doute.
Merci.
On va quand même rappeler évidemment Lavazza, ses cartes noires, ses maxi Coffee maintenant, c'est évidemment les cafés Lavazza. Voilà, France est, je crois, votre deuxième plus important marché et vous avez envie de faire de nouvelles acquisitions. Vous nous direz peut-être lesquelles. On parlera aussi peut-être d'une taxe sur les grands industriels qui ne veulent pas renégocier parce que vous en faites partie et vous m'avez dit juste avant, je ne veux pas renégocier. Vous nous direz comment vous allez faire. Mais on va commencer peut-être ce qui cause votre venue ici en France. Vous êtes partenaire de Roland-Garros depuis très longtemps et ce encore jusqu'en 2025. Qu'est-ce que vous apporte un partenariat avec Roland-Garros?
Mais c'est un partenariat qui dure de longtemps. C'est un partenariat très solide. Nous sommes très heureux d'être ici cette année aussi pour partager toutes les valeurs de ce tournoi magnifique, d'une vitrine internationale pour nous. La France est devenue le premier marché pour Lavazza.
Devant l'Italie.
Et donc pour nous, Paris, la France et tous les événements importants comme le Roland-Garros sont centrales dans notre stratégie de communication de marque.
D'accord. Communication de marque très importante, évidemment, puisque vous êtes des produits grand public, même si vous vous adressez aussi avec la vente de machines, notamment en grains, parce que je sais que ça explose, on en dira un mot, mais vous êtes surtout vis-à-vis du grand public. Giuseppe Lavazza, juste encore un mot sur ce partenariat avec Roland-Garros. Ça consiste à faire quoi?
Nous sommes partenaires officiels comme café, donc nous avons un dispositif sur place avec beaucoup de bars, de cafétéries. Nous servons beaucoup de café pendant le tournoi. L'année passée, nous avons aussi eu le plaisir d'avoir notre brand, la marque Lavazza, sur le cours central avec une exposition très importante, mais sont surtout les valeurs que nous partageons avec le tournoi et le plaisir de recevoir notre invité.
Et vous êtes partenaire du tournoi de Rome aussi, qui est juste avant, qui est très très important?
Non, nous sommes partenaires de Wimbledon, nous sommes partenaires de l'US Open et nous sommes partenaires aussi de ATP Finals qui se joue à Turin, notre ville.
Ah, tournoi, d'accord. Ouais. Oui, parce que vous êtes grande famille italienne qui forcément est à Turin. Giuseppe Lavazza, vous avez subi l'envol des prix du café. Les prix ont doublé, je crois, en 2022. Et tous les coûts de production. Parce que je vais quand même rappeler que vous êtes le premier fabricant mondial de machines à expresso et premier fabricant mondial des capsules individuelles. Vous en fabriquez plus de 2 milliards de dosettes. C'est dire si c'est important. Donc là, les prix du café, ils ont doublé. Le plastique, on en dirait un petit mot. Du reste, l'aluminium, tout ça, ça a explosé. Le prix d'une dosette a été multiplié par combien ?
Ah, par beaucoup. Ça dépend. Sur notre marché, il y a beaucoup de différents produits. Il y a les cafés moulus, il y a les grains, il y a les dosettes, il y a les différents canaux de vente. Donc, la gestion du prix a été ciblée en suivant les différents marchés, les différents segments. Mais en effet, c'est vrai, le prix du café a explosé. Dans le 2021, nous avons eu un pic de le café arabica pour une gelée très forte qui a frappé le Brésil, la production brésilienne. Et cette année aussi, nous avons un autre pic dans le café robusta, qui est l'autre variété de café qui a touché le maximum depuis 15 ans. Donc vraiment une situation compliquée, difficile au niveau d'approvisionnement de la matière première.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2023, le pic du prix du café a été atteint et que c'est plutôt en train de redescendre ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Nous avons cette situation du Robusta qui reste très élevée, absolument. Et après, il y a aussi la position du dollar. C'est important à considérer pour nous. Nous achetons en dollar, donc à cet moment, le dollar est plus fort et frappe bien sûr les coûts du café que nous devons racheter.
Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour maintenir... Alors, votre marge, elle a baissé. Vous avez annoncé un peu tout à l'heure, justement, un peu les résultats. Marge opérationnelle est tombée à 13,5%. Ça, c'était en 2021. Et là, 11,4% en 2022. En 2023, elle sera de combien ?
En 2023, nous pensons que tous les effets de l'inflation et surtout du prix du café va se décharger sur notre compte d'exploitation.
Ouais.
Donc 2021-2022, nous avons tenu bien, assez bien les marges, mais surtout les volumes, parce que nous avons pratiqué une politique de prix très prudente et très attentive aux attentes des consommateurs. Mais 2023 sera une année très difficile au point de vue des marges et de la tenue de compte de l'entreprise.
Ouais. Vous faites, en 2022, 2,7 milliards de chiffre d'affaires. Vous avez 8 usines, dont une en France.
Oui. Ouais.
Vous avez combien de collaborateurs ?
Ah, maintenant, avec l'acquisition de Maxi Coffee, nous sommes arrivés à 5 500 collaborateurs, ouais, dans tout le monde.
Ouais. Et la France, donc votre premier marché, on dira un mot aussi de la Chine, parce que je sais que vous revenez de Chine et que vous êtes en train de vous développer aussi beaucoup en Chine. Ça veut dire quoi ? Comment vous faites pour tenir vos prix ?
Avant tout, il faut considérer que nous tentons toujours d'avoir une entreprise très compétitive sur le marché. Donc, il faut gérer très bien les prix pour permettre aux consommateurs de continuer à racheter notre produit. Alors, l'action pour tenter de contraster l'augmentation des prix, des coûts de production, surtout, était faite par une gestion très prudente de la politique de prix, avec une baisse de notre marge et en compenser beaucoup l'action inflative et en gestion très rigoureuse des coûts. Donc, c'est une action complexe jouée sur trois différents secteurs de notre action économique.
Giuseppe Pellavasa, est-ce que pendant la crise qu'on a connue, est-ce que les Français, est-ce que les gens, ils ont consommé plus de café ?
Mais nous devons considérer que cet phénomène inflatif est vraiment quelque chose d'unique parce qu'il a touché tous les secteurs. Donc aussi le pouvoir d'achat des consommateurs commence à être touché. Donc pour cette raison, nous avons tenté de garder les prix et de sacrifier quelque chose au point de vue de notre image. Bien sûr, il y a une élasticité prix-volume importante dans notre marché, et notamment quand les prix commencent à augmenter, il y a une diminution des volumes. Ouais. Cette diminution des volumes commence à se faire sentir aussi dans notre secteur.
Ah, d'accord. Moins combien ?
Mais ça dépend bien sûr du produit. Sur les moulus, par exemple, nous avons déjà enregistré un petit shoot. Il y a par contre une évolution positive du segment du café en grains qui est...
Ah oui, qui a explosé, ça on en dira un mot, ça a explosé.
Et ça a explosé, ouais, exactement, et en tenue du marché de la capsule.
Oui. Je crois que vous avez écouté le journal avec attention, que c'est Pellavasa, parce que selon nos informations de BFM Business, Bercy, le ministère des Finances, Bruno Le Maire, envisagerait de taxer les industriels qui ne veulent pas renégocier Vous, avec Carte Noire, c'est la marque préférée des Français, mais c'est la marque la plus distribuée dans la grande distribution. Est-ce que vous nous dites ce soir, je suis prêt à renégocier ?
Alors, nous avons l'intention de suivre cette évolution législative qui est très importante, mais il faut faire parler les chiffres, je pense. Alors, dans les 2022, notre chiffre d'affaires en France a augmenté de 6%. Et les volumes en total sont augmentés de 0,1%. Donc, ça signifie que nous avons tenu les volumes et nous avons augmenté les prix en faisant vraiment petit par rapport aux 14% qui on s'annonce comme niveau de l'inflation. Donc, je pense qu'il faut considérer secteur par secteur et cas par cas, parce qu'il y a des entreprises comme Lavazza qui a bien géré avec responsabilité l'augmentation des prix.
Donc ce soir, vous dites non à Bruno Le Maire. Vous dites, nous, on ne peut pas renégocier.
Pour nous, c'est impossible parce que...
Impossible.
C'est impossible parce que sinon, nous mettons à risque la tenue financière de l'entreprise. Donc nous sommes vraiment en tension avec les coûts et nous espérons que la situation va améliorer dans les 2024. Mais pour l'instant, nous avons déjà compensé beaucoup avec notre marge et nous sommes en limite qui est impossible de passer.
Ouais. Et qu'est-ce que vous allez faire si jamais il y a cette taxe ?
Il faut considérer, bien sûr, toutes les options. Mais au point de vue de la gestion économique, nous avons bien négocié avec la distribution qui a accepté notre augmentation de prix, notre politique, parce qu'il était très justifié par la situation générale. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation n'est pas changée à tel point pour renégocier les conditions que nous avons établies.
Tiens, on va faire un tout petit détour comme ça par la pub, la publicité, votre pub. Elle est bien, mais la pub de Nespresso, elle est géniale, non ? Avec George Clooney, Camille Cotin et Jean Dujardin. Vous n'allez pas faire la même chose chez Lavazza ?
Nous avons choisi une façon différente pour faire la pub. Ouais. Nespresso a fait son choix et je la respecte complètement. C'est une grande entreprise. Mais nous aussi, nous avons des très bons marketing makers qui font des communications de haut niveau. C'est une communication pour Carte Noire très française, comme Carte Noire est absolument 100% française. Nous avons ramené en France toute la production des Carte Noire à la Verrune pour avoir la verticalisation
totale. La Verrune, c'est l'usine que vous avez en France, justement.
Oui, ouais. C'est tout à fait dédié seulement à Carte Noire. Ouais. Donc, nous avons le plaisir de dire que Carte Noire reste le café préféré par les Français avec un parc de marché très important. C'est numéro 1 dans les marchés moelleux et dans les cafés grains.
Ouais. Au total, vous produisez combien de tonnes de café chez Lavazza ? Moi, je comptais en milliards de dosettes, mais vous produisez combien de tonnes de café ?
Il faut considérer les numéros des sacs de café. Ça, c'est l'unité de mesure.
Ah oui, c'est le sac de café, c'est vrai.
Le sac de café, c'est 100 kilos et nous avons déjà superé 4 millions de sacs de
100 kilos
de café pour un. Donc, c'est vraiment une très bonne quantité.
Alors, la France, juste avant cette taxe envisagée par Bercy, on sent quand même que ça vous a un peu heurté, Giuseppe Lavazza, la France est votre premier marché et vous comptez faire des acquisitions, vous y développez. Vous avez racheté la totalité du capital de Max & Coffee. Pourquoi est-ce que la France est si importante ? J'ai envie de dire l'Italie, c'est Lavazza, c'est le café, c'est l'expresso. Pourquoi la France ? Tant mieux pour nous.
Oui, mais dans notre stratégie, c'est très important l'internationalisation et pas seulement l'exportation. Donc il faut créer des pays très forts, des autres jambes pour garantir au groupe un développement durable dans le futur. La France est un pays où nous avons investi beaucoup. Nous sommes présents en France il y a 40 ans. Nous sommes partis zéro. La première filiale de Lavazza a été fondée à Paris en 1982 par mon père et pour mon cousin. Et nous avons fait toujours des investissements en ces pays avec beaucoup de succès, avec avant tout le rachat à Paris de Café Rillage et Henri Bertrand, la première acquisition faite en 1993. Ouais. Et après, beaucoup de petits fonds de commerce. Lavazza aujourd'hui est leader dans les marchés hors domicile. Et après, bien sûr, des autres acquisitions dans les marchés retail, Carte Noire, mais maintenant aussi Maxi Coffee. Donc nous avons vraiment investi beaucoup. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires,
oui,
qui nous faisons en France est 600 millions 50.
Oui, donc c'est
beaucoup.
C'est
et l'Italie beaucoup. Est 500 millions 90. Donc la France.
Une autre usine en perspective en France ou pas ?
Non, pour le moment, non. Il y a l'usine, bien sûr, de la Verrue, mais aussi Maxicoff, il y a une usine. Donc, nous avons déjà deux usines.
Oui. Maxicoff, c'est une entreprise française qui existait, que vous avez rachetée, qui vend des machines et du café sur Internet. Donc,
c'est ça.
Ouais. Oui. Là, vous allez compter le développer comment, Maxicoff? Maintenant, vous l'avez racheté.
Oui, Maxicoff, c'est un modèle de business très intéressant parce qu'elle a cette plateforme e-commerce qui pour nous est très importante. Nous pensons que l'e-commerce aura un futur important sur le marché de café aussi. Donc nous sommes très intéressés à comprendre et à racheter la technologie et bien sûr les savoir-faire.
Vous êtes au total, vous avez 8 usines, c'est ce qu'on disait au total, dont une en France encore une fois. Vous êtes présent dans 140 pays et vous revenez de Chine. La Chine, vous avez signé un partenariat et c'est très important pour vous. Les Chinois, ils prennent des cafés ?
Beaucoup. C'est un marché en développement très intéressant. Nous avons trois façons pour soutenir notre développement international. La croissance organique, bien sûr, l'acquisition et l'alliance stratégique. En Chine, nous avons fait une alliance stratégique avec un groupe très important qui s'appelle Yum China, spécialisé dans le retailing. Donc, il était intéressé à développer un marché café avec une marque importante, a choisi Lavazza comme partenaire. Ils nous ont comme objectif de créer d'ici à 2026 1000 boutiques de café dans le pays.
Des boutiques, là ça serait vraiment des boutiques.
Des coffee
shops. Des machines qu'on peut, des coffee shops, prendre un café ou alors pour acheter des machines.
Non, pour prendre un café, ce sont des coffee shops, c'est-à-dire ce sont des cafés.
Des coffee shops, c'est ça.
Oui, des cafétéries.
Et bien, j'ai quand même une question. Vous disiez tout à l'heure, on parlait de l'explosion et du succès du café en grains. C'est la grande tendance, un peu, il y a le retour des vinyles et puis il y a le retour du café en grains. Mais aussi c'est beaucoup plus écolo parce que les dosettes, c'est quand même pas très écologique.
C'est ça, exactement. Il y a un retour envers la naturalité, la simplicité, mais aussi un savoir-faire un peu plus artisanal, si vous voulez.
Oui, il y a l'art du café, il y a l'art du thé, et maintenant, vous voulez développer l'art du café.
C'est ça, exactement. Il y a de belles machines automatiques ou manuelles. Il y a l'intention du consommateur de se mélanger avec la ritualité du café. Et donc, les grains sont parfaits pour compléter cette expérience qui est vraiment pas une nouveauté, mais retrouve une jeunesse aujourd'hui qui est exceptionnelle.
Oui. Plus, j'avais noté le volume, c'est plus 27, presque 28%.
Oui, c'est
Mais ça se poursuit.
Absolument.
C'est les jeunes notamment.
Oui, c'est un phénomène global. C'est pas seulement la France, c'est aussi l'Italie, les Royaumes-Unis, les États-Unis. Mais il y a un public très varié. C'est-à-dire, il y a des personnes plus jeunes, mais surtout, il y a des personnes qui sont des connaisseurs, qui sont des personnes qui aiment beaucoup la cuisine, la nourriture. Donc, on recherche quelque chose de spécial. Ils vont préparer eux-mêmes le café.
Les cafés en grains, lui, il a augmenté de combien? Je reviens dans les grandes surfaces en France. Le paquet de café en grains, il a augmenté de combien?
Ça dépend.
Non, mais carte noire, par exemple. On reste sur la carte noire, puisque c'est la marque la plus distribuée.
Entre 8 et 10 %.
Pardon?
Entre 8 et 10 %.
Oui. 8 et 10 %, oui. C'est quand même beaucoup. C'est plus que l'inflation.
Non, l'inflation était à 14 %.
Oui, donc 14% sur alimentaire, vous avez raison. Vous
donc, c'est moins.
Oui. Et là-dessus, vous allez compter... est-ce que le prix du paquet de café, il va redescendre à un moment?
Alors, bien sûr. Dans l'époque, dans l'histoire du café, nous avons vu beaucoup de fluctuations, c'est-à-dire le café est un commodity avec beaucoup de volatilité. Il y a des saisons, les prix sont très élevés, des autres qui tombent. Et bien sûr, il y a beaucoup de compensations, surtout au niveau des promotions, d'activités promotionnelles. Donc, quand le café commence à baisser, car le marché est très compétitif, il y a beaucoup de compétition, on commence à avoir une bagarre et les prix commencent aussi à baisser.
Et ça, c'est pour quand vous pouvez dire aux Français qui vous écoutent, consommateurs de café, les prix du paquet de carte noire, il va baisser quand?
Ah, pour l'instant, il ne va pas baisser, malheureusement, parce que la situation est encore sous tension. Dans le 2024, nous espérons qu'en général, les prix de café vont baisser et il y aura la possibilité pour donner de l'espace.
Est-ce que vous subissez des marques distributeurs dans le café, c'est-à-dire des marques...
Non.
Non. C'est forcément des... Donc, vous êtes quasiment en monopole, Giuseppe Lavazza. Donc, vous profitez de la situation.
Non, ça, c'est impossible parce que le marché est très complexe. En France, il y a...
Il y a l'or du café, une
bien sûr, il y a des marques très importantes, non? Il y a des concurrents très forts, il y a Nestlé, il y a l'or, dans les marchés retail, dans les marchés horeca, il y a beaucoup de torréfacteurs locaux qui sont absolument puissants. Donc, le marché est toujours en grande compétition.
Donc, encore une fois, vous nous dites, je ne baisserai pas mes prix.
Pour l'instant, c'est impossible.
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 Oui, j'attends de voir la discussion avec Bruno Le Maire, hein, quand vous allez le rencontrer. Vous êtes prêt ?
Avec plaisir.
Oui, avec plaisir, vous l'attendez aussi. Quel regard vous jetez sur la France lorsque vous voyez les manifestations sur la réforme des retraites, le débat à l'Assemblée nationale ? Vous vous dites, tiens, ça me rappelle un peu mon pays, l'Italie.
L'Italie est plus calme. Nous avons
c'est
aussi...
plus calme maintenant, c'est un peu la version.
Oui, c'est beaucoup plus calme. Nous avons bien sûr des discussions sur les retraites en général, parce que c'est un problème global, le vieillissement de la population.
Elle est à combien en Italie, la retraite ?
Ça dépend, il y a beaucoup de systèmes. Nous avons un système très compliqué, il y a de la flexibilité, il y a des méthodologies pour compter les années de travail et des contributions. En général, c'est 65 ans, mais il y a beaucoup de différences. Ouais. Donc, comme toutes les choses en Italie, sont très compliquées. Mais il y a beaucoup de discussions parce que la situation de la dette publique est fragile et donc aussi la tenue du système de retraite doit être bien considérée.
Quand on dirige une entreprise comme Lavazza, la transition écologique, comment vous le répercutez sur votre activité ? Je ne sais pas si vous avez vu le rapport Pisani-Ferry en France, Mafous, qui dit il faudrait une des hypothèses pour financer tout ça, ça coûte très cher, ça serait de taxer les super profits, les super riches et les entreprises. Comment est-ce que vous réagissez, vous ?
Nous sommes sur ce sujet depuis 2004 avec la création de notre fondation qui était le point de départ d'une action durable, long terme, que l'entreprise poursuive depuis des années. Nous sommes très engagés dans beaucoup de projets. Par exemple, avec la fondation, nous financions 33 projets des coopérations internationales avec les producteurs de café en 21 pays, 3 continents, impliquant environ 180 000 producteurs. Ça, c'est un aspect. Et après, il y a tous les processus pour réduire, par exemple, les impacts de la CO2, mais aussi toutes les actions.
Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, dans vos usines ?
Par exemple, le 98% du café produit dans notre usine utilise une énergie renouvelable.
Renouvelable, d'accord.
Exactement, ça c'est un exemple. Les 76% de notre packaging est déjà complètement recyclable, compostable, réutilisable. Ouais. Sera les 100% d'ici 2025. Le 97% de notre déchet végétal qui dérive du café se sont déjà transformés en engrais. Donc, il y a tout un programme sur l'énergie, par exemple, mais aussi sur les packaging pour réduire l'impact et arriver 2030 avec une entreprise à impact zéro.
Et sur le recyclage des dosettes ?
C'est la même chose. Il y a beaucoup, bien sûr, d'études. L'aluminium est un matériel recyclable, donc il y a déjà des solutions un peu compliquées, mais il est déjà possible. Il y a beaucoup d'études pour arriver à utiliser du papier ou des autres formules pour garantir la qualité, mais en même temps augmenter la durabilité du produit.
Oui. Est-ce qu'on aura encore quelques années, mais peut-être qu'encore quelques mois, il y aura toujours des dosettes où petit à petit, les gens vont s'en détourner?
Les dosettes sont un produit que les gens aiment beaucoup
parce qu'il y a beaucoup de conveniences
pratiques. Oui. Et bien sûr, c'est un produit qui aura des évolutions importantes pour tenir compte de toute attente au niveau durable qui sont absolument fondamentales.
Merci beaucoup. On voit qu'il y a un sacré programme. Et puis en même temps, on voit aussi que pour vous, la compétition est rude et qu'il n'est pas question de baisser les prix, qu'il n'y a pas forcément de marge de manœuvre. Il n'y a pas impossible, impossibilé, comme vous dites. Merci à Giuseppe Lavazza d'avoir été avec nous. Donc, vous avez compris, le président du groupe Lavazza. Tout de suite, c'est Tech & Co, bien sûr, François Sorel. Pour ceux qui veulent réécouter cette interview, vous pouvez regarder, flasher votre QR code qui s'affiche pour ceux qui n'en regardent la télévision. Et sinon, sur le site de BFM Business, en replay. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.